Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
À la veille d'une manifestation qui promet d'être à nouveau violente, un dispositif exceptionnel est mis en place.
Jamais on a vu des blindés dans Paris et pourtant c'est ce qui va se passer demain. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner affirme ceci, la situation est grave. Grande page dans ce journal consacrée à cet acte 4 tant redouté. Nous entendrons même Édouard Balladur puisque beaucoup d'entre vous faites la comparaison avec mai 68. L'autre grand titre, c'est de l'actualité en marge du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette vidéo de lycéens agenouillés par les policiers de Mantes-la-Jolie. Pour certains, c'est un scandale. Pour d'autres, les policiers ont fait leur travail. Nous serons sur place et nous entendrons le ministre de l'Intérieur. Dans ce journal consacré à beaucoup aux Gilets jaunes, vous entendrez le témoignage de Blandine à Calais. Son fils lui a donné une pièce d'un euro pour pouvoir s'acheter un vêtement. Elle témoigne de la misère qu'elle vit au quotidien. Le Téléthon 2018, pas de studio Place de la Concorde et pour cause, on craint les débordements de la manif de demain. Et puis, dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que Jonathan Daval est confronté à sa belle famille. Comme tous les vendredis également, vos sorties, vos idées de sorties pour le week-end. Et la météo, Valérie Darmon, cet après-midi, ça reste maussade sur les trois quarts de la France.
Absolument, on a une perturbation active accompagnée de fortes pluies et de vents à 80 km/h qui traversent le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, jusqu'en Champagne, jusqu'aux Ardennes et les Hauts-de-France. Elle progresse donc vers l'est et le sud. Elle atteindra en soirée les régions du Grand Est, au Massif Central, jusqu'aux Alpes, où il neige d'ailleurs vers 1400 mètres et puis 700 mètres la nuit prochaine. Et c'est seulement autour de la Méditerranée que le soleil reste généreux. La douceur, elle, se maintient avec des maximales supérieures aux moyennes de saison de 3 à 7 degrés.
Merci Valérie. À tout à l'heure, juste avant 13h, météo complète sur Europe 1. Europe 1. Christophe Castaner l'a donc confirmé ce matin, Pierre, la France sera quadrillée demain.
Avec un effectif sans précédent, 89 000 policiers et gendarmes, des blindés prévus dans la capitale, c'est du jamais vu jusqu'à présent. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé place Beauvau, il y a un peu plus d'une heure, il s'adresse avant tout aux casseurs.
Je m'adresse aux casseurs, qui parmi les gilets jaunes ont basculé dans la violence, comme aux professionnels de la violence qui se sont greffés au mouvement. Aux délinquants, aux criminels, nous opposerons la réponse la plus ferme. Mais je sais que ceux qui ont de la sympathie pour les Gilets jaunes condamnent, comme nous tous, ces violences. À eux, je voudrais dire que tout sera mis en œuvre pour les défendre. Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux. Maintenant, place à la République, place à nos valeurs, place au respect du droit, place au dialogue et à la réconciliation. Place à la paix et à la protection. Ce sera tout le sens de notre mobilisation pour demain.
Christophe Castaner avec Guillaume Bié à Paris. C'est bien sûr la crainte du côté des commerçants qui payent un lourd tribut depuis le tout premier samedi de contestation. Vitrines brisées, magasins pillés. Cette fois, le scénario est différent puisque d'après nos informations, les casseurs pourraient changer de quartier, abandonner les Champs-Élysées qui seront bouclés pour les quartiers des grands magasins et du boulevard Haussmann. Jean-Gabriel Bourgeois, vous étiez sur place tout à l'heure. Comment se prépare-t-on ?
Eh bien, place Saint-Augustin, on ne veut pas revivre ce qui s'est passé samedi dernier. Voitures incendiées, vitrines brisées. Une agence bancaire est encore recouverte de panneaux de bois, tout comme le Monoprix juste en face. Fabienne gère un café sur la place et demain, elle va fermer.
Nous avons enlevé la terrasse, on va fermer. C'était un peu chaud ici, oui, oui. Enfin, ils ont tout prévu, ils ont enlevé les grilles des arbres, ils enlèvent les scooters, ils enlèvent les motos. Maintenant, il y a un risque, bien sûr, un gros risque même.
À côté, Max tient un bureau de tabac, il préfère baisser son rideau en fer et il va même ranger toute sa marchandise en lieu sûr.
C'est clair que je vais tout ranger. Tout ce que vous voyez là sur les présentoirs, ça sera pas là d'ici ce soir. Et je reviendrai dimanche pour tout remettre en place.
Un peu plus bas sur le boulevard Haussmann, près des vitrines des grands magasins, on s'interroge encore. À deux semaines de Noël, le manque à gagner continuerait d'être impacté. Nordine préfère ouvrir son restaurant demain, quitte à fermer plus tôt, comme la semaine dernière.
S'il y a vraiment du monde et les casseurs, alors c'est mieux de fermer, d'avoir des casses, des blessés surtout.
Pour le moment, les galeries Lafayette seront ouvertes demain et le printemps réfléchit encore ce midi à une possible fermeture.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Il est 12h34 sur Europe 1, la suite du journal Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
L'autre grand titre de l'actualité, Pierre, c'est évidemment cette vidéo qui met le feu sur les réseaux sociaux. 150 lycéens agenouillé par la police. C'était hier à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
Des lycéens qui ont affronté les forces de l'ordre dans le cadre de violences dans leur établissement. Cocktail Molotov à la clé, des policiers exsangues qui ont fini par encadrer ces jeunes dans un jardin. Christophe Castaner est également revenu sur le sujet il y a une heure et demie, Chloé Triomphe. Et
oui, ces images qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux, on rappelle qu'on y voit des jeunes agenouillés, les mains sur la tête, et bien ces images contribuent à alimenter la colère, cette fois chez les jeunes, et visiblement, Christophe Castaner en a bien conscience, puisqu'il reconnaît leur impact ce matin, et il tient aussi à les replacer dans leur contexte.
Je sais la violence de ces images, mais je sais aussi, et je pense qu'il nous faut la lier, la violence de cette réalité. Ce ne sont pas des mouvements de lycéens, mais de véritables violences urbaines. Au fil des jours, ce que l'on a pu observer, c'est que des lycéens, auteurs de blocages, étaient rejoints par une centaine d'individus encagoulés et armés de bâtons et d'engins incendiaires, avec la ferme intention d'en découdre avec les forces de l'ordre.
Et juste avant la scène, eh bien, ces jeunes avaient monté et enflammé des barrières dans le quartier. Ils s'en étaient pris aux automobilistes et avaient même saccagé des pavillons, dont l'un où, en volant une bouteille de gaz, ils avaient bousculé son occupant, une personne âgée. Ces bouteilles de gaz, ils les avaient ensuite jetées sur les barricades, robinets ouverts. L'intervention a mobilisé 83 policiers, selon le ministre de l'Intérieur. Certains jeunes avaient pris la fuite, mais pour ceux restés sur place, environ 150, eh bien, il ne restait que 12 membres des forces de l'ordre, d'où ces images et ces vidéos.
Merci Chloé. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Virginie Salmen, vous êtes dans les Yvelines justement, où le préfet ainsi que le proviseur du lycée ont tenu eux aussi à faire la lumière sur ce qui s'est passé.
Oui, les proviseurs des deux lycées de Mantes-la-Jolie devant lesquels se sont déroulées les interpellations, ils confirment qu'ils ne reconnaissent que très peu de leurs élèves parmi les auteurs des violences urbaines. Ce matin, certains élèves sont restés chez eux, certaines familles protègent leurs enfants, d'autres veulent malgré tout venir en cours. Mais ni choc ni colère, assure Philippe Maillard, proviseur du lycée Jean Rostand. Pour lui, les élèves ont du mal à réaliser ce qui s'est passé.
Justement, ce matin, comme il n'y avait pas d'attroupement devant les établissements, ça a été l'occasion un peu plus de discuter tranquillement. Je posais la question à des élèves. Donc, dans le langage et avec le mot des élèves, c'était « c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu exagéré, quand est-ce qu'on peut reprendre les cours ?»
Alors aujourd'hui, aucun de ces lycées n'est fermé. Les autorités scolaires affirment que tous les scénarios sont sur la table. Pour l'instant, les proviseurs vont effectuer des contrôles visuels au besoin sur les sacs des élèves pour s'assurer qu'aucune arme n'entre dans les lycées, que les violences restent à l'extérieur.
Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, en direct de Guyancourt dans les Yvelines.
Ouais, ce qui ne va pas empêcher, Pierre, les lycéens de poursuivre évidemment leur mobilisation.
Comme à Toulouse où les jeunes sont mobilisés pour la 5e journée. Benjamin Peter, vous êtes avec les lycéens de l'établissement Ozen dans le centre et ils ne comptent pas relâcher la pression.
Oui, ils ont installé un barrage filtrant devant l'établissement avec des barrières et des poubelles. Plusieurs lycées dans l'agglomération sont mobilisés de la même manière avec des revendications propres, même si Marius est favorable à une convergence avec le mouvement des Gilets jaunes.
On est contre la réforme de Parcoursup qui entraîne la sélection à la fac, contre la nouvelle réforme du bac qui entraîne la suppression des filières, contre la baisse des moyens dans l'éducation en général. Je pense que le ras-le-bol manifesté par les Gilets jaunes a motivé les lycéens à bloquer et à manifester et ça passera aussi par nous, je pense.
Depuis lundi, les lycées sont fortement mobilisés ici, ce qui a donné lieu à des affrontements avec la police. Hier encore, 11 personnes ont été blessées, 7 interpellées. Mais pour Émilie, cette violence est contre-productive. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'intention de manifester demain.
Moi, j'y serai pas parce que ça va être trop violent. Le mouvement des lycéens doit se différencier des violences faites par certains gilets jaunes et certains casseurs. Et d'ailleurs, les dégâts qui ont été faits dans certains lycées, les lycées brûlés, etc., je trouve ça affligeant. Le but, c'est pas de brûler notre accès au savoir.
Voilà, alors en attendant, une nouvelle manifestation lycéenne est prévue dans un peu moins d'une demi-heure autour du palais de justice. Il pourrait être rejoint massivement par les étudiants du Mirail qui sont réunis en ce moment même en Assemblée Générale pour voter pour ou contre la grève.
Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Dans votre région, Benjamin, on apprend la saisie de 28 cocktails Molotov et 3 bombes artisanales à Montauban. Puis concernant les lycées, toujours à Mulhouse, un policier sérieusement blessé ce matin lors d'une manifestation. Les Gilets jaunes, eux, ont appelé pour la branche libre à plus de sérénité, en tout cas un appel au calme lancé ce matin devant l'Assemblée nationale. Mais la colère, elle est là, elle ne cesse de croître. À Calais, où Mathieu Béliard s'installe avec Europe 1 ce soir, de 18h à 20h, des interdictions de manifester dans tout le département. Je vous propose d'écouter un témoignage fort, celui de Blandine. C'est une habitante de Calais, elle aussi manifeste avec les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive pas à vivre, tout simplement.
On n'en peut plus, on vit pas, on survit, c'est pas normal, c'est pas une vie. On peut pas se rhabiller normalement, on peut pas se rhabiller en magasin, on est obligé d'acheter tout sur... soit on nous le donne, soit on achète en Oka sur internet, c'est pas normal. Mon gamin, il a perdu une dent, la petite souris, elle est passée. Mon gamin de 6 ans, il est venu avec sa pièce d'un euro et il m'a dit « Maman, tiens, achète-toi quelque chose avec ». 6 ans, avoir conscience que la vie est chère, qu'on a des problèmes d'argent, bah, je trouve pas ça normal. Quand j'ai entendu qu'il y a une députée qui savait même pas ce que c'était le SMIG, mais c'est une honte. Ils savent même pas avec quoi on vit. Bah, eux qui se priment un petit peu, qui se mettent à notre niveau. Et là, ils verront. Là, ils constateront que la vie, c'est de la merde au final. C'est con, il n'y a que ça qu'à dire, c'est de la merde. Parce qu'on vit pas.
Ça vous donne envie d'aller encore manifester ici samedi ?
Je serai tout le temps là, tout le temps.
Même s'il y a des casseurs, même si...
Même s'il y a des casseurs. De toute façon, c'est ce qui, pour moi, malheureusement, je suis contre, hein, je suis contre la violence. Hein. Mais pour moi, si là, ça a bougé, c'est grâce à la casse. Et c'est con, mais s'il faut que ça aille encore plus loin, pour que ça bouge encore plus loin, bah, c'est con, mais il faudra que ça arrive.
Voilà, la vraie voix, la voix des Gilets jaunes par l'intermédiaire de Blandine Accalet avec Lionel Gougelot. Les routiers, quant à eux, abandonnent. FO et la CGT, qui avaient appelé à une grève illimitée dès dimanche soir, ont levé l'appel après avoir reçu des engagements du patronat et du gouvernement sur les heures supplémentaires.
Et pendant ce temps, Pierre, la marche pour le climat, elle, est maintenue et elle est prévue demain.
En dépit des violences attendues, c'est pas faute de leur avoir dit que le message risquait d'être brouillé à cause de la marche des Gilets jaunes. Mais d'un autre côté, les écologistes tiennent à cette marche dans l'Est parisien alors que se tient toujours la COP24 en Pologne. Du coup, lors d'Autriche, sur demande de la préfecture, l'itinéraire a été modifié pour des raisons évidentes.
Oui, et en premier lieu, s'éloigner bien sûr des Champs-Élysées. La marche pour le climat devait initialement se tenir près de la Tour Eiffel. Elle aura finalement lieu à 14h dans l'Est de la capitale, de la place de la Nation jusqu'à la place de la République. Un parcours plus classique que les forces de l'ordre maîtrisent mieux, surtout dans le cas où les casseurs voudraient se joindre au cortège. Cette zone est aussi moins huppée que le 8e et le 16e arrondissement de Paris, aux vitrines rutilantes déjà éprouvées la semaine dernière. Alors malgré toutes les menaces, les organisateurs espèrent plus de 30 000 personnes, comme lors de la dernière marche pour le climat en octobre dernier. 250 bénévoles sécuriseront aussi le parcours. Pauline Boyer, co-organisatrice de l'événement, invite même les Gilets jaunes à venir marcher avec eux.
On ne peut pas, en pleine COP24, au moment où les négociations internationales n'avancent pas, annuler une marche pour le climat. Tous les Gilets jaunes qui veulent venir marcher sont les bienvenus, parce qu'il y a énormément de revendications qui sont partagées. On ne peut pas opposer écologie et sociale.
Et à Paris, eh bien, les organisateurs espèrent aussi que le concert d'une heure et demie qui est prévu à l'arrivée Place de la République avec notamment Jeanne Chéral, Abdal Malik ou encore l'actrice Juliette Binoche, les organisateurs espèrent que ce concert pourra se tenir.
Merci Laure d'Autriche.
Il est 12h42. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le silence d'Emmanuel Macron et la peur des députés. A tout de suite.
Il est 12h45 sur Europe 1, la suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
À moins de 24 heures de l'acte 4 des Gilets jaunes, les députés Pierre ont peur.
C'est une situation inédite. Mais voilà, Adrien Beck, vous avez enquêté, c'est pas facile, hein, car le mot d'ordre à La République En Marche, c'est de surtout ne pas laisser transparaître un quelconque frémissement. Adrien, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que les députés de la REM ont peur non seulement pour la suite du mouvement, mais aussi pour eux-mêmes.
Oui, dès que vous évoquez la journée de demain avec eux, vous sentez beaucoup d'inquiétude dans leur voix, dans leur attitude. Certains députés, alors impossible de savoir combien, seront protégés par un ou deux gendarmes devant leur domicile ce week-end. Des députés menacés, y compris par SMS. On connaît ta fille, ta femme, ont reçu plusieurs élus. On ira vous chercher dans votre lit et on vous fera la peau, dit un autre message. Extrême violence et réponse symbolique des députés marcheurs hier et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une vingtaine d'entre eux ont tourné des vidéos appelant au calme. Des tracts intitulés « Maintenant le dialogue » sont distribués aujourd'hui. Ultime tentative d'éteindre l'incendie car demain c'est la démocratie qui est en jeu, dramatise une députée qui prévoit de rester chez elle ce week-end. Une autre ajoute, un peu démunie. Et s'il y a des violences demain, je suis bien incapable de vous vous dire ce qui se passera dimanche matin.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et en attendant, on n'a toujours pas de prise de parole d'Emmanuel Macron, même si ce matin, Richard Ferrand a affirmé que le chef de l'État s'exprimerait en tout début de semaine.
Mais dans l'immédiat, en effet, silence radio. On sent Emmanuel Macron un peu barricadé derrière les murs de l'Élysée. Du coup, on ne sait pas quel sentiment l'habite. Jean-Rémy Baudeau, est-ce qu'on sait ce qui se passe au château ?
Alors officiellement, il y a de la sérénité dans les couloirs de l'Élysée. Le président est très concentré, il est sur le pont, affirme un proche d'Emmanuel Macron. Dans l'entourage du chef de l'État, en mettant en avant la volonté d'apaisement du pouvoir, on a le sentiment qu'une bonne partie des Français a compris. Alors méthode coué, diront certains, mais du côté de Matignon, c'est le même affichage. Les retours du terrain sont positifs, c'est ce que nous font remonter certains instituts de sondage, précise un brin optimiste, un conseiller du Premier ministre. L'exécutif qui affirme ne pas se sentir assiégé, quand bien même certains gilets jaunes appellent à marcher sur l'Élysée. Pour autant, le président restera donc silencieux jusqu'après le week-end. Ne pas mettre de l'huile sur le feu, expliquait ce matin Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée. Mais en coulisses, les langues sont parfois plus dures. Cette sérénité, c'est une posture, raille un proche du ministre de l'Intérieur, qui explique que l'exécutif n'a pas entendu les signaux annonciateurs de cette violence. L'exécutif est en réalité en apnée. L'urgence, c'est que ça ne parte pas en vrille. Mais on ne sait pas comment on s'en sort, tranche un membre de l'exécutif.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Je vous entends nombreux à dire « c'est mai 68 ». Ce matin, quelqu'un qui a connu justement cette révolte de mai 68, alors qu'il était aux responsabilités, était l'invité d'Europe 1. Écoutez le sentiment d'Edouard Balladur.
Je suis très inquiet. Ça peut très mal se terminer. En 1968, la France était un pays dans lequel régnait un certain optimisme et une foi dans l'avenir. La tâche était à la limite peut-être plus facile. Aujourd'hui, tout ça s'est un peu volatilisé.
De quoi souffre la France aujourd'hui ?
De ne plus croire en elle-même. Et la première tâche de la politique, c'est de rendre aux Français l'optimisme et la croyance en leur pays.
Voilà donc Édouard Balladur qui était l'invité de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1. Le Téléthon 2018 ne trouvera pas son poste habituel, place de la Concorde. La raison, c'est toujours la même, le risque de débordement. Mais vous appelez dès ce soir le 36-37 pour tous vos dons. Les maladies concernées touchent 3 millions de personnes en France.
Il est 12h49. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1, dans un instant direction Besançon pour un face-à-face dans l'affaire Daval. A tout de suite.
Il est 12h51 sur Europe 1, la suite du journal Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Avec dans l'actualité Pierre, également un rendez-vous très important ce matin dans l'affaire Daval.
Oui, car Jonathan Daval est depuis ce matin confronté à la famille de sa femme Alexia. Il est toujours le suspect numéro 1 dans ce meurtre, mais lui accuse sa belle famille d'un complot. Arthur Elmbaché, vous êtes à Besançon au tribunal où la confrontation se poursuit.
Oui, Jonathan Daval face à sa belle famille au troisième étage dans le bureau du juge et ici dans le hall du palais de justice. Sa famille a lui venu le soutenir, même si le frère, le beau-père et la mère du principal suspect, Martin Henry, ne verront pas Jonathan Daval aujourd'hui.
Il est anxieux, il veut faire la confrontation, mais il est très très fatigué. Donc on espère que ça va aller, qu'il va tenir le coup.
Tenir le coup par rapport à...
À l'audience, là. Non, la version, c'est sa version, il ne la changera pas, c'est la vérité, donc non, ça, il ne la changera pas. Mais ça va être très émotif tout ça pour lui, hein. Très très fort.
Deux confrontations sont d'ores et déjà terminées, Pierre, celle avec Grégory Gay, le beau-frère de Jonathan Daval, celui qui l'accuse à présent d'être le meurtrier, et celle avec sa belle-sœur. On vient de voir toute la belle famille et tous les avocats sortir du palais de justice pour une pause d'une demi-heure. L'avocat de Jonathan Daval, c'est maître Randall Schwerdorfer.
Il n'y a eu en l'état aucun changement, ni de part et d'autre. C'est-à-dire que personne, tout le monde a maintenu, hein, si vous voulez, ses déclarations. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a évolué dans le dossier. Maintenant, les confrontations ne sont pas terminées. D'ici une demi-heure, elles vont reprendre avec les parents d'Alexia.
Voilà, donc après le beau-frère et la belle-sœur de Jonathan Daval, ce sera tout à l'heure à ses beaux-parents de lui faire face, les parents d'Alexia. D'abord Jean-Pierre Fouliot, puis son épouse Isabelle.
Merci Arthur Elmbaché en direct de Besançon pour Europe 1. Et puis Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maïlys, est entendu par les juges pour une nouvelle affaire de pédophilie après une autre vidéo d'agression sexuelle sur une enfant qui a été découverte dans son téléphone portable. On passe au journal de la culture comme tous les vendredis. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Et commençons par un livre, un beau cadeau de Noël.
Exactement, c'est le cadeau idéal si vous avez un jeune ado qui a du mal à se mettre à la lecture. Jules Verne, Les Voyages extraordinaires, publié dans un coffret grand format superbe chez Omnibus. Il regroupe 20 000 lieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, Le Tour du monde en 80 jours et Le Château des Carpates.
Que des grands classiques. Hein.
Oui, mais à redécouvrir parce que non seulement vous avez les romans avec le capitaine Nemo, Phileas Fogg, etc. Mais vous avez aussi les illustrations d'époque. 223 gravures de l'édition Hetzel d'origine. Vous savez, ces beaux livres rouges, grand format. Certaines illustrations sont en couleur. C'est magnifique.
Bon, dites-moi, prenez-le un peu à la main, qu'on le voit, parce qu'on est aussi sur Europe 1. Ah voilà, vous y arrivez d'un bras. Ça coûte cher ?
Même pas, je récapitule. 4 romans, un beau coffret et des illustrations pour 39 euros. Et en plus, c'est le genre de livre qu'on garde toute sa vie.
Vous nous proposez du théâtre aussi.
Oui, Thierry Geffrotin est allé voir Éric Cantona à l'affiche du Théâtre Antoine à Paris dans Lettres à Nours. La pièce prend la forme de lecture de lettres entre un père musulman pratiquant tolérant et sa fille de 20 ans qui a disparu subitement. En fait, elle est partie en Irak rejoindre un homme qu'elle a épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh. Ces lettres sont à la fois des mots d'amour que s'écrivent ce père et sa fille, des arguments qu'ils s'opposent aussi à propos de l'islam. Et s'agissant du père, c'est aussi une leçon de philosophie.
Les questions vous font peur, mais si vous craignez Allah, alors craignez de vous tromper dans vos convictions et cherchez humblement. Les musulmans sont appelés à être d'humbles chercheurs. Tu le sais bien, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes.
Éric Cantona donc, au Théâtre Antoine, on termine en musique.
Mais oui, avec David Hallyday par exemple, il a sorti son dernier album intitulé « J'ai quelque chose à vous dire », un album pop-rock dans lequel il évoque la mort de son père, notamment on écoute « Ma dernière lettre ».
David Hallyday, dernier album. Merci Nicolas Carreau. Une dernière minute puisque le défenseur des droits ouvre une enquête sur l'interpellation des jeunes agenouillés par la police à Mantes-la-Jolie.
Merci Pierre. À tout de suite pour les grands titres de l'actualité de ce vendredi.
Il est 12h55.
Europe 1. Restez avec nous. Le sapin, les guirlandes, les boules de Noël. Oui mais, version française. C'est tout de suite. C'est ça, la France qui bouge.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Le temps de ce samedi, Valérie Darmon.
Pas terrible, avec la perturbation d'aujourd'hui qui se sera évacuée par les frontières de l'Est après avoir donné de la neige à moyenne altitude sur les massifs et notamment sur les Alpes. Le ciel de traîne qui va s'installer sur l'ensemble du pays va rester maussade, pluvieux et venteux. Ce sera un petit peu plus clair de l'Aquitaine à la région PACA. Les températures, une moyenne de 11 au nord et de 14 au sud.
Merci Valérie. 12h59, c'est l'heure des titres de ce vendredi. Pierre de Villeneuve.
Le ministre de l'Intérieur défend les interpellations de 151 jeunes lycéens à Mantes-la-Jolie, agenouillés par la police. Il rappelle le contexte très violent des faits qui s'étaient produits. Le défenseur des droits Jacques Toubon ouvre une enquête. La grève des routiers n'aura pas lieu. FO et la CGT ont obtenu des engagements sur les heures sup et puis le Téléthon 2018. Pas de studio, place de la Concorde et pour cause. On craint les débordements de la manif de demain, mais vous appelez le 36-37 dès ce soir.
Merci Pierre, à tout à l'heure, juste avant 14h.